Et comme il a été dit ce matin au travers de la Sainte Seine, on a la grâce d'être sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais on va voir en fait que la grâce ne s'arrête pas au salut que nous avons. Et ça a été dit ce matin qu'il y a une marche avec le Seigneur qui est possible par le sacrifice de Jésus. Et je voudrais aussi aborder ce thème de la sanctification. On va voir en fait différents points, on va dérouler ensemble le message, mais de se dire en fait que Dieu nous a donné des choses et se poser la question qu'est-ce qu'on fait de ces choses en fait. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là lorsque j'avais prêché la dernière fois sur le thème de s'approcher avec assurance du trône de Dieu, j'avais fini en fait ce message-là avec un message en fait de Martin Luther King, qui s'adressait en fait et qui avait réfléchi sur la cause des hommes et des femmes noires. Et il se rendait compte en fait qu'on pouvait donner plein de droits en fait et qu'il s'était battu pour qu'ils aient des droits qui soient égaux. Mais finalement, il se rendait compte que si dans leur propre être intérieur, ils ne prenaient pas possession pleinement des droits qui leur avaient été conférés, ils restaient toujours sous le joug de l'esclavage dans une identité d'esclavage. Et donc, je vous invite à prendre ça en considération pour le message. Et aussi, l'autre point que je voudrais vous dire ce matin, c'est que j'aborde le message de la sanctification avec vraiment le cœur du Père, en fait, et dans vraiment avec un encouragement profond de la part du Seigneur, et vraiment pas en volonté de moraliser, de condamner, bien au contraire. C'est vraiment avec un énorme encouragement. Donc, recevez ce message en vous disant que c'est votre Père qui vous parle, votre Père céleste qui veut vous encourager dans votre marche avec lui. Amen. Donc voilà pour les contours. Donc je voudrais d'abord voir avec vous, donc je voudrais parler de la sanctification. Et mon premier point, ma première partie, c'est le fait que nous sommes tous appelés à la sanctification. Et c'est vraiment un appel que Dieu a mis sur notre vie. Alors certains sont appelés au ministère apostolique, d'autres d'être pasteurs, d'être enseignants, d'être prophètes. Mais on a tous un appel commun qui est la sanctification. Et donc je vous invite à prendre le livre de Pierre, donc c'est 1 Pierre chapitre 1 versets 14 à 16. Et là, donc il est dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Et ensuite, dans le livre de, donc c'est la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, il est dit: car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Nous sommes appelés à la sanctification et nous sommes tous concernés. Tous concernés, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, ou que ceux où ça fait 10 ans, 20 ans que vous avez donné votre vie au Seigneur. La sanctification, c'est tout le temps jusqu'à la fin de nos jours avec le Seigneur. Le fait est aussi, par rapport à cet appel, c'est qu'il n'y a pas de gradation selon le ministère que nous portons, selon l'appel que nous portons. Nous sommes tous appelés à la même sanctification. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous avez entendu, pendant toute la période politique, on parlait d'oligarchisme, d'une voie très spéciale pour certains hommes politiques, pour certains profils, etc. Et avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est... tout le monde, tous ses enfants, on est tous appelés à la même sanctification, à la même puissance de sainteté, peu importe ce que tu es appelé à faire dans ta vie pour le Seigneur. Amen. Et la sanctification vaut pour tous les enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être saints parce qu'il est saint, parce qu'il est notre Père, parce que nous sommes appelés à lui ressembler. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas des personnes qui sont appelées à plus de sainteté que d'autres. Nous sommes tous appelés à la sainteté de Dieu. Tous, sans exception, de la même manière. Amen. Et... le fait aussi, c'est ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que l'appel à la sanctification ne se résume pas en fait à les ne pas, je ne dois pas faire ci, ne pas faire ça, je me protège de ça, je ne fais pas ça. L'appel à la sanctification serait très réducteur si on se tenait qu'à cela, qu'à ne pas faire certaines choses. Mais si pour devenir saint, ce que je dois faire, c'est que je dois, oui, faire attention et faire des choix dans ma vie, mais je dois aller rencontrer celui qui est saint. Les ne pas ou ne pas faire, ça ne va pas transformer notre nature. Mais notre nature peut être transformée, peut être visitée par la puissance de Dieu parce que lui, il est saint. Parce que lui, il est saint en tout temps, de toute éternité. Et la sainteté, ce n'est pas juste fuir le péché, mais c'est aller aussi vers Dieu et demander à Dieu sa sainteté. Et lui, il nous la donnera parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Et aller vers Dieu, c'est aller vers le feu dévorant, c'est aller vers celui qui nous consume, qui va venir consumer nos péchés, qui va venir consumer notre ancien moi, notre vieille nature. La transformation est possible entre les mains de Dieu. Mais l'appel de Dieu, donc c'est aller vers Dieu, c'est fuir le péché, mais aller vers celui qui est saint. Et ça demande une recherche de notre part et forcément une succession de choix que nous allons faire dans notre vie avec le Seigneur. Et on va prendre l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 14. Il est dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et donc, si on regarde les verbes qui sont employés, ce sont des verbes d'action. C'est « fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites. Recherchez la paix et la sanctification. » Nous sommes appelés à rechercher la sanctification, à rechercher Dieu qui est saint. Nous sommes appelés à faire attention où nous mettons nos pieds. Est-ce que mes pieds, je les mets sur des voies droites ou est-ce que je les mets sur des voies tortueuses ? Ce sont des verbes d'action. À cet appel, nous devons nous actionner, nous devons rentrer en action, nous devons faire des choix, nous devons aller vers Dieu qui est saint, nous devons rechercher la sanctification. Et l'appel à la sanctification, c'est donc une décision d'emprunter un chemin spirituel de sainteté. Tout comme nous empruntons des routes pour nous rendre à certains endroits ce matin pour venir à l'église, nous avons tous emprunté une route. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, on suit les panneaux quand on n'est pas habitué à aller à un certain endroit, on regarde la direction. Eh bien, la sanctification, vous pouvez faire le parallèle comme ça en chemin spirituel. C'est un chemin sur lequel Dieu nous mène et Dieu nous appelle et il nous guide au travers de ce chemin. Et Ésaïe nous parle très bien de ce chemin spirituel. On va prendre Ésaïe 35, versets 8 à 10. Il est dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe nous parle de la voie droite que nous avons en Jésus-Christ, de la voie de la sainteté. Et j'aimerais relever certains points avec vous. Il est dit que sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Et souvent, on dit en fait que Satan est comme le lion qui rugit, qui cherche à nous dévorer. Mais on oublie souvent le verset qui suit. Il est dit que si nous résistons, il fuira loin de nous. Et Satan, il peut pas venir sur le chemin de sainteté. C'est impossible pour lui. Et souvent, il y a un adage qui dit l'argent appelle l'argent. Bah moi, ce matin, j'ai envie de dire la sainteté appelle la sainteté. Plus tu iras dans la sainteté, plus l'ennemi fuira de ta vie. Plus tu iras dans la sainteté, plus tu rentreras dans une autorité face au péché. Plus tu seras dans l'autorité que Dieu veut te donner. aimer. Il est dit, nulle bête féroce s'approchera, nulle bête féroce ne peut emprunter le chemin de la sainteté. Sur le chemin de la voie sainte, c'est ceux qui ont voulu y rentrer et personne d'autre. Et Satan ne peut pas y venir. Oui, il nous tente, il y a des combats, il y a des pièges, mais on a l'autorité. Et plus on rentrera dans la sainteté, plus l'ennemi fuira parce que lui, il ne peut pas venir là où nous, on va. Amen. La sainteté appelle la sainteté. Donc l'appel de Dieu, c'est vraiment ce rechercher le Seigneur, rechercher la sainteté, rechercher sa présence, s'actionner, prendre des voies droites avec nos pieds, nous fortifier. Mais c'est aussi possible et nous pouvons répondre à l'appel de la sainteté qu'en confirmant et en proclamant Romains 6, verset 14. Il est dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et c'est la grâce habilitante que nous avons. Oui, nous avons la grâce du salut, mais nous avons la grâce puissante de Dieu dans nos vies qui nous donne le pouvoir sur le péché. La domination du péché a été anéantie par Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit que nous avons le pouvoir sur le péché, non sous la loi, mais sous la grâce. Renfermé en Jésus-Christ, dans ce qu'il a accompli. On a un pouvoir qui est énorme, qu'aucun scientifique ne peut expliquer, ne peut mesurer, ne peut quantifier. C'est le pouvoir sur le péché et c'est donc le pouvoir contre la mort. Amen. Et ce serait très réducteur dans nos vies de dire oui, ben la grâce de Dieu, c'est le salut, nous sommes sauvés. Non, la grâce de Dieu, c'est la puissance qui t'habilite à dominer sur le péché, à le vaincre et à marcher en sainteté de vie. Et si nous ne croyons pas à cela, eh ben alors on ne peut pas répondre au chemin de la sainteté. Parce qu'avec nos propres forces, c'est impossible. Sous la loi, c'était impossible. Sous la loi, il ne faisait que couvrir les péchés par les sacrifices que les Lévites faisaient. Mais avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Et vous savez, ce message, en fait, Dieu me l'a mis à cœur. C'était pendant la période de jeûne et prière. Et on était réunis ensemble. Et d'un coup, en fait, Dieu m'a clairement dit, mais certains d'entre vous, vous ne prenez même pas possession de ce passage-là. Vous ne prenez pas possession, vous ne le connaissez même pas. Peut-être que certains, vous le découvrez aujourd'hui, que le péché n'aura plus aucun pouvoir sur nous parce que nous sommes non sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et nous devons prendre possession. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité pour nos vies. Mais répondre aussi à cet appel de la sainteté, c'est répondre de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Et on va prendre l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15. Il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » On s'arrêtera là. On va rester sur le « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et le mot « priver » en mot grec, ça veut dire « se rendre dans un état inférieur ». Ça veut dire être déchu de quelque chose qu'on avait le droit. En fait, on avait le droit à quelque chose et on s'en prive. On est déchu, on se met dans un état inférieur. Et Dieu nous appelle à être dans la sainteté, dans un état supérieur. Et c'est marqué « Veillez à ce que nul ne se prive ». Donc c'est tous ensemble. À moi, avec mon mari, on doit être vigilant à ne pas se priver de la grâce de Dieu, de marcher en sainteté de vie. Tous ensemble, en tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à marcher ensemble en sainteté de vie, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de la grâce pour le salut, mais de la grâce pour la puissance qui nous habilite à marcher contre le péché et à marcher sur le péché. C'est ensemble et collectivement que nous sommes appelés. On est dans la même barque. On a tous la même destination. Et on sait que l'ennemi, il veut qu'une chose, c'est qu'on chute. Mais tous ensemble, collectivement, nous sommes appelés en tant que frères et sœurs en Christ à marcher en sainteté de vie ensemble. en nous encourageant, en nous fortifiant les uns les autres, en nous exhortant les uns les autres, parce que le but, c'est que personne ne soit privé de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Et forcément, cet appel-là, c'est tout au long de notre vie. C'est pas que quand on est jeune, où on découvre le Seigneur et on est tout feu, tout flamme, on est appelé à être tout feu, tout flamme jusqu'à notre dernier jour. On est appelé à marcher en sainteté jusqu'à notre dernier jour. Que quand on sera sur notre lit de mort, eh ben, on puisse dire qu'on a combattu le bon combat, qu'on est allé jusqu'au bout. Et nous sommes appelés tous ensemble à aller jusqu'au bout avec le Seigneur en sainteté de vie. Amen. Et maintenant, je voudrais passer à ma deuxième partie. Donc, vous l'avez bien compris, la première partie, c'était l'appel de Dieu avec tout ce qui en découle en termes d'action et de vérité que Dieu nous donne pour pouvoir répondre à son appel. Et je suis d'accord avec vous, et ce sera mon deuxième point, c'est que finalement, Dieu nous a appelés à une voie par excellence. C'est l'excellence d'être saint, c'est l'excellence d'être parfait. La parole de Dieu nous dit « Soyez parfaits comme moi, je suis parfait ». Ben, je sais pas pour vous, mais c'est le programme, le niveau, il est ultra élevé. Et je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, je retourne à l'école en fait. Vous avez déjà eu peut-être parfois des consignes de la part des profs où ils vous demandent de faire un exercice. Bah en fait, tu regardes ta feuille et tu ne sais pas du tout comment faire, tu ne comprends même pas l'énoncé. Ou alors, il y a certains profs, donc je suis désolée pour Sandy, mais certains profs aiment mettre des pots de banane aussi dans les épreuves, où en fait, ils nous mettent une consigne, puis il y a, vous savez, le mot qu'il fallait voir et qu'il fallait bien comprendre pour réussir tout l'exercice. Et ce qui fait que si tu as raté ce mot-là, bah, un manque de peau, tu as une bulle. Et ça nous, je pense que ça nous est déjà tous arrivé, sauf peut-être pour ceux qui sont ultra performants en maths, en sciences. Et le fait, c'est que Dieu n'est pas comme ça. Dieu, en fait, n'est pas comme un tyran qui nous propose une voie par excellence sans nous donner tous les moyens d'y arriver et d'y parvenir. Et je voudrais ce matin aussi, au cours de ce message, c'est que tout esprit d'orphelin sur la sainteté, sur la pureté, dans le combat par rapport au péché soit brisé. On n'est pas seul dans la marche, on n'est pas seul, nous ne sommes pas orphelins dans la sainteté. Et ce matin, je veux vraiment briser le mensonge de l'ennemi qui nous fait croire, quand nous sommes dans le combat, que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls et on va voir en fait successivement pourquoi nous ne sommes pas seuls. Et on verra que Dieu nous a donné un programme par excellence et qu'il a pourvu en toutes choses pour que nous puissions tous ensemble réussir le programme qu'il nous a donné. Et tout d'abord, si nous pouvons réussir à marcher en sainteté de vie, c'est parce que Dieu a pourvu par lui-même. Donc, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, il est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Et Dieu ce matin veut nous rappeler dans notre marche avec lui qu'il est fidèle et qu'il le fera et il continuera à nous sanctifier, il continuera à le faire parce qu'il est fidèle et parce qu'il le fait par lui-même, il nous sanctifie lui-même tout entier, notre corps, notre âme, notre esprit. Nous allons prendre aussi le deuxième livre de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. Il est dit... Donc là, on parle de Dieu, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, etc. On va s'arrêter là. Mais deux points, c'est par sa divine puissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie, à la piété, donc à la sanctification, au fait de se tenir dans la sainteté. Dieu a tout donné. Et ensuite, il est dit à la fin que nous sommes rendus participants à la nature divine. Dieu est saint, et il nous rend participants à sa nature. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que si vous regardez à chaque fois, les enfants ressemblent aux parents. Il y a toujours des traits de caractère. Il y a toujours des traits physiques de ressemblance. Bah, Dieu est saint. Et comme des enfants, nous sommes appelés à être participants de sa sainteté, de sa nature divine. Nous sommes appelés à cela. Le deuxième point dans le programme, le fait que Dieu ait tout prévu, donc Dieu pourvoit par lui-même, mais aussi Jésus-Christ lui-même pourvoit pour notre sanctification. Et là, on va prendre Hébreux 10, verset 10. Il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, par son sang. Et le « une fois pour toutes », c'est pour l'offrande. Nous, nous sommes appelés plein de fois à aller dans la sanctification, dans la sainteté avec le Seigneur. Mais par le sacrifice de Jésus, une fois, son sacrifice a été fait et nous sanctifie à tout jamais. On ne va pas le prendre, mais l'Épître aux Hébreux dit aussi que nous sommes sanctifiés par son propre sang, par le sang de Jésus. Et on va prendre Jean, chapitre 17, verset 19. Il est dit « Je me sanctifie ». Donc là, c'est Jésus qui parle à ses disciples en disant « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ». Jésus lui-même s'est sanctifié pour nos vies. Il s'est sanctifié, il s'est donné pour nous. Et le programme, Jésus le disait aussi, « Afin que nous aussi, nous soyons sanctifiés par la vérité ». Et vous savez, Christ, en fait, comme on l'a rappelé ce matin, on s'est commémoré son sacrifice. Mais en fait, Christ habite en nous. Et Paul, en fait, dira que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Et la sanctification de Jésus, ce que Jésus est, c'est en nous. Dieu a mis quelque chose en nous qui est de lui, qui est de sa nature. Et on va prendre Jean, chapitre 1, versets 16 et 17. Il est dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons tous reçu de sa plénitude ce matin, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et peu importe ce à quoi nous sommes appelés, peu importe le ministère auquel tu es appelé à porter ou non, nous avons tous reçu de la plénitude de Jésus-Christ. Tous, on a tous quelque chose de Jésus en nous. On a tous quelque chose de Jésus en nous. Et Dieu ne fait exception. Dieu ne rejette personne. Il n'y a pas l'élite et ceux qui doivent arriver derrière et qui ont les bouts et les restes. C'est tous ensemble. Nous sommes appelés à la même chose. Et nous avons la plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude pour nos vies. Mon troisième point, c'est que la sanctification est possible et Dieu y a pourvu au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Et vous savez, ce matin, à l'intercession, en fait, Dieu a parlé au travers de Josine. Et Dieu disait cela, en fait. Il disait qu'il reviendrait, que le Seigneur reviendrait et que nous devions le considérer comme une vérité. Il faut vraiment prendre au sérieux ce qui est dit dans l'Apocalypse. Jésus reviendra. Et Dieu disait cela, en fait, que son cœur saignait parce qu'il nous aimait terriblement, profondément. Dieu nous aime, mais d'un amour inimaginable. Mais Dieu disait aussi, je vous aime énormément, mon cœur saigne pour vous. Et vous êtes appelés à la perfection, non pas par vos propres forces, mais par l'Esprit qui nous aide dans la marche avec le Seigneur. Quand Jésus reviendra, ce qu'il veut retrouver, c'est une épouse, c'est l'Église, l'épouse de Dieu, sans tache, avec une robe blanche complètement lavée de tout péché. Et Dieu, ce matin, nous rappelait à intercession, par le don de prophétie, qu'il reviendra et qu'il nous demande de marcher en sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Non pas avec nos propres forces, mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec ce que Dieu a fait, avec ce que Jésus a fait et avec ce que le Saint-Esprit fait. Et il est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Et vous savez, ces derniers mois, ce qui m'a frappé aux yeux, en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est par la sanctification de l'esprit avec esprit et E majuscule. Et moi, ça m'est sauté dessus, je ne l'avais jamais capté. Et on voit en fait que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu s'est donné lui-même, il a donné Jésus-Christ et il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions être sanctifiés. Il nous donne le Saint-Esprit. Et un des rôles majeurs du Saint-Esprit, c'est Jean 16, verset 8. Il est dit, quand il sera venu, donc Jésus, il parlait du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et chaque conviction de péché que nous pouvons avoir dans nos vies, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce matin, nous pouvons nous réjouir de ce que nos convictions de péché sont là et présentes parce qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas par notre intellect, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est parce que le Saint-Esprit vient souffler sur nous. Il vient embraser nos cœurs et nous dire « rentre dans une voie sainte, ne fais pas cela, fais ça, oui, là tu es sur la bonne voie, là n'y va pas ». C'est le rôle du Saint-Esprit, c'est notre compagnon de route, c'est le Saint-Esprit vient sur le chemin de la sainteté, il est comme les panneaux de direction quand on prend l'autoroute, et il vient et il borne notre route, il est celui qui nous conduit sur la voie sainte et qui va nous convaincre de pécher jusqu'à notre dernier jour. Et il le fera. Et ce matin, si tu sais que tu es dans le combat face à des péchés, et même peut-être que tu sais que tu aimes encore faire certains péchés, mais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien tu as le droit de demander à Dieu qu'il te donne de haïr le péché. La haine du péché vient par l'œuvre du Saint-Esprit. Vient par la conviction que seul le Saint-Esprit est capable de donner. Il nous convaincra de péché. Il peut nous donner une haine profonde pour le péché. Il nous donne la puissance de renoncer au péché. Et le quatrième point, c'est que Dieu a pourvu à ce programme de l'excellence par la vérité. Et Jean chapitre 17, versets 17 à 19, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Et vous savez, moi en fait pour certains qui me connaissent bien, quand j'ai fini mes études, en fait j'ai vécu un temps de consécration très fort où en fait toutes les portes pour le travail se sont fermées pendant 9 mois, j'avais aucune porte d'ouverte, enfin tout était bloqué, fermé, et Dieu m'a vraiment mise à part et pendant 9 mois et j'ai vraiment vécu une consécration très forte de la part du Seigneur. Et cette consécration, je l'ai vécue au travers de la parole de Dieu. Je l'ai vécue au travers, oui, du Saint-Esprit, du fait que Dieu me visitait. Mais le fait de lire la Bible, le fait de la lire, de la dévorer, ça me consumait. Et quand on lit la parole de Dieu, nos pensées vont s'aligner sur les pensées de Dieu. Et parfois, on va même rien ressentir. On ressentira rien, mais d'un coup, on va se rendre compte que nos pensées sont en train de changer, qu'on est en train de penser différemment. Et on pense différemment parce qu'on lit la parole, parce que la parole, elle vient nous nourrir et elle vient nous donner cette bonne semence qui fait qu'on arrive à entrer dans le chemin de sainteté. Et la consécration, je l'ai vécue avec la parole de Dieu. Je ne l'ai pas vécue que en étant visitée par le Saint-Esprit, mais je l'ai vécue parce que la parole de Dieu me brûlait. La parole de Dieu est capable de nous brûler, elle est capable de nous consumer. Et souvent, en fait, c'est nous qui rendons la parole de Dieu théorique, mais la parole de Dieu est loin d'être une théorie. La parole de Dieu, elle nous sanctifie par la vérité, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, Jean dira en fait que la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus et c'est la bouche de Dieu. Jésus était avec Dieu depuis tout temps, au commencement. J'en dis que la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair, donc Jésus. Et Jésus, on dit que c'est la vérité. Si tu n'aimes pas la Bible, bah t'as un problème avec Jésus. Parce que Jésus, c'est la Bible, c'est la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu dit que sa parole, vous savez, cette parole, ce que Dieu a dit et ce qui est renfermé là, c'est dit que ça soutient l'univers entier. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est puissant. Et là aussi, il n'y a aucun scientifique qui pourra quantifier cette puissance. Il n'y a aucun appareil de mesure qui pourra quantifier la puissance qu'il y a dans la parole, dans l'autorité qui est revêtue sur cette parole. La parole est revêtue d'une autorité qu'aucun instrument ne pourra jamais mesurer. Mais nous, nous-mêmes, par notre propre intellect, par nos propres raisonnements, nous annulons l'autorité quand on n'en fait qu'une théorie. Mais dedans, tout ce qui est renfermé, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique, c'est Jésus-Christ, parole de Dieu, faite chair, laissée pour nous. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, dit que nous avons été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons la plénitude de Dieu, nous avons la plénitude de Jésus-Christ, nous avons la parole vivante et permanente de Dieu qui est Jésus-Christ en nous. La parole, la vérité, la Bible, c'est une semence incorruptible. C'est une semence incorruptible pour nos vies. Et c'est en nous, c'est en chacun d'entre nous. Et vous savez, mercredi à l'intercession, Dieu nous rappelait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi, nous sommes appelés à grandir en foi et en sainteté de vie au travers de la parole de Dieu. Notre foi doit être basée sur la parole. Nous pouvons être passionnés, zélés, mais c'est sur la parole que nous devons baser notre foi et rien d'autre. Sur la foi et rien d'autre. Et vous savez, quand Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, je relisais le contexte et là en fait Paul parle de la prédication, du fait de parler de la parole de Dieu. Nous sommes avoir la foi en la sainteté, on peut l'obtenir au travers de la parole de Dieu. C'est une semence incorruptible, une semence qui ne peut pas s'altérer, elle subsistera. Elle subsistera, la parole de Dieu dit que la parole restera, elle subsistera, tout passera, mais sa parole ne passera jamais, elle demeurera éternellement. Et finalement, pour ce chemin donc de la sanctification, on a ces quatre piliers. Moi, je les appelle les quatre piliers. J'ai Dieu, j'ai Jésus-Christ, j'ai le Saint-Esprit et j'ai la parole de Dieu. Et tout cela, c'est cette grâce qui nous habilite à marcher en sainteté de vie. C'est cette grâce qui nous habilite où on peut dire non au péché, où on marche dans le pouvoir de dire non au péché. Et c'est en chacun de nous. Dieu l'a mis en chacun de nous. Le jour où tu as dit oui au Seigneur, tu es devenu l'enfant de Dieu. Et Dieu a mis une semence incorruptible en toi qui ne demande qu'à s'exprimer et qui ne voudra s'exprimer que jusqu'au bout de ta vie. Et ces quatre piliers, donc nous ne sommes pas orphelins. Et quand l'ennemi vient nous dire que nous sommes seuls dans le combat, eh bien vous avez tous les passages que l'on vient de dire. On peut les prendre et on peut les proclamer chez nous dans le lieu secret et dire que nous ne sommes pas orphelins et que nous avons quatre piliers. Nous avons Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la Bible. Et moi, ben, je trouve que c'est de la dynamite, c'est une bombe atomique. Le péché ne peut pas résister face à Dieu. Le péché ne peut pas résister face à Jésus-Christ. Le péché ne résiste pas face au Saint-Esprit. Et la parole de Dieu l'écrase également. Amen. Maintenant, ce sera mon dernier point. Je sais en fait que ces quatre piliers, en fait, ce sont, on les accepte facilement quand on rentre, quand on marche avec le Seigneur et on se sent facilement excusé de notre vie passée. On se sent facilement pardonné de notre vie passée. Mais vous savez, ces quatre piliers, ces quatre forces que nous avons, c'est non seulement par rapport à notre vie passée, nos péchés passés, c'est aussi peut-être pour nos péchés présents, mais aussi pour nos péchés futurs. Et c'est vraiment, il n'y a pas de marqueur temporel avec Dieu. Dieu est capable de la même puissance de sainteté au début de notre vie chrétienne jusqu'à la fin. Et Dieu est fidèle et juste aussi pour nous pardonner quand nous chutons. La parole de Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois il s'en relève. Et Dieu est fidèle et juste. Et là, je veux insister vraiment pour tous ceux qui seraient encore dans la culpabilité face à des péchés que vous avez commis, connaissant le Seigneur. C'est facile de recevoir le pardon de Dieu quand on ne connaissait pas le Seigneur. On se dit, ouais, bah là, j'avais une vie vraiment horrible. Mais parfois, ça nous arrive de chuter et de tomber dans des péchés alors que nous connaissons le Seigneur. Eh bien, ce matin, je voudrais vraiment vous dire que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner constamment. Aussi bien quand nous ne connaissions pas le Seigneur que quand nous connaissons le Seigneur. Parce que c'est une marche, on marche de progrès en progrès. Et les péchés d'autrefois ne sont pas forcément les mêmes combats qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être éprouvé par d'autres choses, par d'autres tentations. Eh bien, Dieu sera toujours là dans notre marche avec lui. Mais ça n'empêche que je veux quand même mettre un point de vigilance quant au fait de retourner dans le péché alors que nous connaissons le Seigneur. Et là, on va prendre la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Et donc, on va prendre ce message-là vraiment avec le cœur du Père, parce que je sais que ça peut choquer certaines personnes. Et là, en fait, Pierre dira, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez... » Je regarde, je ne sais pas si c'est ça. C'est pas ça. C'est le 2. C'est la deuxième lettre, Cassandre. Donc, c'est 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Donc là, il est dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. » Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je vous accorde, ce sont des images, franchement, être comparé à ça, il y a mieux dans la vie. Ça n'empêche que c'est pas moi qui choque, c'est la Bible de Dieu qui vient frapper nos consciences ce matin. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous avons connu le Seigneur et que nous retombons et que nous nous vautrons de nouveau dans le péché, nous sommes considérés comme des chiens qui retournent à leur vomi. Et ça peut paraître très choquant. Et j'en conviens tout à fait, mais je pense vraiment que si Dieu met ça, c'est pour frapper nos consciences. Parce que nous sommes appelés à un rang bien plus élevé que de retourner à notre ancienne nature. Nous sommes appelés à la sainteté. Et vous savez, je connais aucun parent, à moins qu'il soit complètement fou, qui laisserait ses enfants avec des vêtements remplis de vomi sur lui. Je pense que, et je peux voir mes belles-sœurs, mes amis qui ont des enfants, quand un enfant vomit, la maman, elle se précipite, elle va chercher un propre t-shirt, un propre pantalon, et hop, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Ben Dieu, il est comme ça avec nous. Il nous dit, ne retourne pas dans tes anciens péchés, ne retourne pas dans ta vieille nature, parce que c'est comme si tu te ressalis, tu remets les choses sales sur toi. Et il faudrait vraiment que les parents soient fous. Alors vous me direz, ça peut exister. Qu'un parent reprenne un vieux t-shirt bien crade, bien sale, plein de vomi, et il le remette sur son enfant. Mais en fait, finalement, quand on retombe dans nos péchés, dans nos anciens péchés, si on s'y vautre à nouveau, et que notre cœur se refroidit, et qu'on dit, oh, c'est pas grave. Ben non. Tu vis pas la destinée que Dieu te réserve ici-bas. Ta destinée, c'est de marcher dans le rang de sainteté. Et Dieu est ce Père qui se précipite vers nous, qui se hâte vers nous pour nous donner des vêtements propres, une robe blanche, sans tache, et quotidiennement, jusqu'à la fin de nos jours, jour après jour, il veut nous donner cette robe blanche. Amen. Et vraiment, nous sommes encore sous des temps de grâce. Nous sommes encore sous les temps de grâce et Dieu nous appelle à vivre dans sa miséricorde, à vivre dans sa grâce. Et je voudrais aussi encourager au travers de ce message tous ceux qui sont dans les combats où effectivement être comparé à un chien qui retourne dans son vomi, c'est pas agréable. Mais Dieu, il veut tellement plus pour notre vie. Et il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Il n'est jamais trop tard. Et Dieu sera toujours bon et fidèle tant que nous sommes sous la grâce pour nous pardonner et pour nous justifier. Et je sais que certains péchés sont durs quand ça fait, quand il y a des dépendances, quand il y a des addictions, quand nos corps sont remplis de péchés qui nous rendent vraiment esclaves. Et je sais que certains péchés peuvent durer des années, des dépendances peuvent durer des années. Mais je vous encourage à ne pas laisser tomber et à persévérer jusqu'à ce que vous ayez la pleine délivrance. Et on va prendre 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et là, ça parle de la femme qui était veuve. Donc, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, va demander au dehors des vaches chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui il s'arrêta. Et vous savez, si je prends ce passage-là par rapport au péché, par rapport à l'esclavage du péché, c'est parce que ce passage-là, pardon, a été donné en fait pour quelqu'un qui m'est proche, et où Dieu en fait disait ben, que comme... Il a donné l'huile à cette veuve qui avait perdu son mari, où elle était sous les crédits, où elle devait rembourser des dettes, mais elle n'avait rien du tout. Et nous, en fait, c'est certains péchés, on est esclaves sous le péché parfois pendant des années, et c'est comme si on était débiteur de Satan, en fait, débiteur, comme si Satan était notre créancier et qu'on lui devait quelque chose. Eh bien, j'ai envie de dire, cette huile qui est versée dans les vases, eh bien, cette huile, en fait, c'est celle qui vient payer ta dette, c'est celle qui vient briser le joug de l'esclavage du péché. Et ce passage-là avait été prophétisé sur une personne en disant que Dieu allait mettre son arrêt sur le péché. Et c'était un péché qui avait duré pendant des années. Et Dieu a mis son arrêt par la puissance du Saint-Esprit, par l'huile qui vient couper le joug de l'esclavage. Et si je dis cela, c'est pour encourager tous ceux qui sont peut-être dans des péchés qui sont sur le long terme, parce qu'il y a vraiment un lien très fort. Eh bien, il y a la puissance de Dieu. Et ces vases ont été remplis et remplis, et Dieu est capable de remplir jusqu'au point où le joug se brise de l'esclavage et où vous êtes complètement libre, comme la veuve a été rendue libre. Amen. Amen. Donc ce matin, je voudrais qu'on se lève. Et on va vraiment prendre un temps de prière pour demander à Dieu de prendre pleine possession de sa parole, de tout ce qu'il nous a donné pour la vérité, pour marcher en sanctification, en sainteté de vie. On va demander à Dieu de nous aider à prendre possession de tout ce qu'il nous a donné comme équipement, comme pilier pour nos vies. Et pendant ce temps de prière, je voudrais vraiment aussi appeler ceux qui ont peut-être ce cœur d'orphelin par rapport à Dieu, parce que vous avez été dans des combats et vous avez toujours cette culpabilité qui est en vous et vous sentez toujours comme plus loin que les autres. Vous sentez peut-être toujours plus loin que ceux qui sont autour de vous, parce que vous avez conscience de tout ce que vous avez fait, mais vous n'arrivez pas à marcher dans la pleine liberté, dans la pleine identité que Dieu vous a donnée. Eh bien, je voudrais prier pour vous ce matin. Et je voudrais aussi prier pour ceux qui ont aussi encore des combats dans leur vie, qui ont des combats.